Je vote pour la science avec Isabelle Burgoyne.
Bonjour à vous, comment vous portez-vous? Bien, j'espère. Dans la ville de Québec, plus de 800 parents et citoyens, et même le maire Bruno Marchand, s'inquiètent de la dégradation prochaine de la qualité de l'air dans la basse ville et dans le quartier Limoilou. Cela suite aux récentes annonces du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Le règlement sur l'assainissement de l'atmosphère serait bientôt modifié pour tolérer plus de particules de nickel présentes dans l'air. Cela pourrait multiplier par 5 la limite d'émanation de ce polluant, qui pourrait atteindre 70 nanogrammes par mètre cube d'air au quotidien. L'Institut national de santé publique du Québec recommande cependant une norme de 20 nanogrammes par mètre cube en moyenne par année pour prévenir les effets respiratoires critiques et les inflammations liées aux expositions répétées au nickel et à ses composés. Et au quotidien, les experts recommandent de ne pas dépasser les 40 nanogrammes par mètre cube d'air. L'industrie du nickel liée à l'électrisation génère des retombées économiques importantes pour la province. Les changements de la norme de nickel dans l'air pourraient modifier ce qui se respire par contre à Québec, particulièrement au sein du quartier de Limoilou. Devrons-nous vivre avec plus de nickel dans l'air? Nous vous en parlons tout de suite. Restez là. À Je vote pour la science aujourd'hui, nous vous parlons des émanations de nickel dans l'atmosphère. La norme tolérée au Québec sera revue à la hausse, comme l'a annoncé le ministère de l'Environnement, de la lutte au changement climatique. Et aussi, nous vous parlons de la résistance citoyenne qui s'organise pour contrer ces changements. Donc pour en parler aujourd'hui, nous rejoignons Isabelle Arsenault, doctorante en didactique des sciences à l'Université Laval. Bonjour.
Bonjour.
Et on est aussi en compagnie de Patrick Ferland. Vous êtes chimiste et enseignant au collégial en chimie. Bonjour.
Bonjour Madame Bourgogne.
Vous êtes tous les deux des citoyens de Limoilou concernés par ces changements de normes. Cela fait longtemps que des citoyens se plaignent de la mauvaise qualité de l'air. Ce quartier voisine, pour ceux qui ne le connaissent pas, l'incinérateur de déchets et des activités de transportement de nickel du port de Québec. Pour commencer, parlez-nous de l'air que l'on respire à Limoilou et à la basse ville de Québec, peut-être Madame Arsenault.
Oui, bien en fait... L'air de Québec est particulièrement chargé en particules nuisibles pour la santé. On retrouve dans l'air de Limoilou des particules d'oxyde d'azote, de dioxyde de soufre, de monoxyde de carbone, des composés organiques volatiles, des divers métaux, des dioxydes furanes, des hydrocarbures aromatiques polycycliques. Bon, en fait, il y a toute une soupe en fait chimique dans l'air de Limoilou et actuellement. Les contaminants, en fait, ce qu'on retrouve dans l'air, ça dépasse assez largement les nouvelles recommandations de l'OMS là au regard de la qualité de l'air.
Monsieur Ferland, comment vous respirez votre air?
Eh bien, d'une manière un peu subjective, je vous dirais que parfois, j'ouvre ma porte le matin et l'air est lourd. De l'air de mauvaise qualité, en fait, ça n'a pas nécessairement une odeur qui lui est affectée. Parfois, oui. Mais souvent, c'est plutôt une impression d'asphyxiation, si on peut appeler ça comme ça, une espèce de manque de profondeur dans l'air. Ça, c'est ma portion subjective sur la qualité de l'air. Puis je trouve que ma collègue Isabelle a vraiment bien relaté les composés chimiques qui caractérisent une mauvaise qualité de l'air puis qui se retrouvent dans l'air de Limoilou. Il faut savoir aussi que concernant nos connaissances sur la qualité de l'air à Limoilou, bien, ça date d'environ les années 70. Déjà, on tirait la sonnette d'alarme sur le fait que Limoilou avait une mauvaise qualité de l'air et était contaminé aux oxydes de soufre, par exemple aux oxydes d'azote et aux particules aussi. Et là, à l'endroit où on se relate, en fait, c'est au moment où il y avait déjà une papetière qui était en place et juste avant la venue du nouvel incinérateur de la ville de Québec qui a été mis en service en 1974. Alors déjà là, on avait une bonne idée là, que l'air de Limoilou était un enjeu problématique.
Si je peux ajouter quelque chose, actuellement, l'étude Mon environnement, ma santé a démontré assez clairement qu'il y a vraiment des incidences majeures sur la santé des populations actuellement, un taux de prévalence de maladies pulmonaires rehaussés dans nos quartiers, des hospitalisations pour maladies respiratoires plus élevées, l'espérance de vie à la naissance, des mortalités prématurées de l'ordre de 7 ans de différence entre la Haute-Ville et la Basse-Ville. Donc, c'est assez majeur. Il y a déjà actuellement des incidences notables sur la santé là, relatives à la qualité de l'air.
Aujourd'hui, on va s'attarder au nickel, nickel présent dans l'air de Québec. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut voir ou on le voit pas à l'œil nu? Est-ce qu'on voit quelque chose de ces émanations?
Pour le nickel, on pourrait le retrouver sous différentes formes. En fait, on va beaucoup parler de sa forme au nickel sous forme de taille de particules. On peut le retrouver à la fois dans des particules ultra fines, fines, allant jusqu'à des particules grossières. Puis justement, toutes les nuances par rapport aux tailles des particules sont extrêmement importantes lorsque vient le temps d'évaluer la quantité de nickel que les gens respirent. Alors, si on peut mettre la table sur certaines terminologies, là, on peut parler, par exemple, lorsqu'on parle de tailles de particules grossières, on va parler de poussière. Et ça, de la poussière, Madame Bourgogne, il y en a beaucoup dans les Limoilou. Nos bords de fenêtres en sont recouverts constamment. Et ces particules grossières-là vont varier bien sûr en taille. Et elles sont visibles. Elles sont pas visibles lorsqu'elles sont devant nous dans l'air. Par contre, lorsqu'elles s'accumulent sur nos meubles, on l'aperçoit. Et quand on frotte cette poussière-là, qu'on la ramasse avec un petit pinceau, un petit balai, on s'aperçoit de la volatilité de certains fragments de cette poussière-là. Et là, on casse notre fragmentation qui était plutôt grossière, puis on s'en va vers des particules de plus en plus fines. On les voit comme des aérosols s'élever dans les airs, là. Et là, lorsqu'on parle de ces particules fines-là, ben, elles peuvent s'élever, justement, pénétrer plus loin aussi dans les voies respiratoires. Et c'est là qu'on commence à parler de particules de diamètre inférieur à 10 micromètres, à 2,5 micromètres. Puis on pourrait même retrouver des particules inférieures à 1 micron ou même à 0,1 micron. Et ces particules-là sont retrouvées dans notre air, effectivement.
Oui. D'où il provient ce nickel présent dans l'air de Québec, Madame Arsenault?
Il y a une étude de spéciation qui s'est attardée en 2013, une étude produite par le MELCC, qui a établi qu'à Québec, en fait, essentiellement, le nickel provient du port de Québec et se retrouve sous la forme d'un sulfure de nickel et de fer qui s'appelle la pentlandite. La pentlandite, donc, c'est un minerai qui est transbordé à Québec. D'ailleurs, je le mentionne en passant, mais Québec est une réelle plaque tournante, pour l'industrie du nickel. Il faut savoir que le nickel, donc le minerai, va être foré dans les mines de la Côte-Nord, va être embarqué sur des bateaux, va transiger au port de Québec pour après ça être envoyé par train à Sudbury où il va finalement être raffiné. Et il va revenir sous la forme d'un nickel raffiné qui s'appelle le MAP, qui est là essentiellement composé de sous-sulfure de nickel. Et il va donc revenir à Québec et repartir sur des bateaux vers la Norvège. Donc, les sous-sulfures de nickel et le sulfure de la pentlandite, donc on sait que ça a des effets cancérigènes, en particulier le sous-sulfure qui est très étudié. Or, la pentlandite, elle est très peu à cet égard-là. Donc, on sait assez bien par différents marqueurs, notamment la signature nickel-cobalt, si on regarde aussi les patrons de dispersion en regardant la route des vents, Brière et Wash ont établi que le nickel provenait essentiellement des activités portuaires.
Oui. Monsieur Ferland, parlez-nous un petit peu justement du nickel et un petit peu de ce qu'on en fait de ces éléments-là, de sulfure, de sous-sulfure, pour qu'on comprenne bien de quoi on parle, de cet élément chimique?
Certainement, je vais essayer de donner des détails là-dessus. Le nickel est extrait d'abord dans des mines souterraines. Dans ces mines-là, le minerai n'a pas été exposé à l'oxygène de l'air pendant des milliers, sinon voire des millions d'années. Donc, ça vient de la croûte terrestre. Alors, on extrait un matériau le minerai qui contient nickel, la pentlandite, qui est plutôt instable dans nos conditions, nous, comme on respire avec l'oxygène et l'humidité. Et ces matériaux-là peuvent être appelés à être transformés par des relations qu'on appelle d'oxydation, donc de réaction avec l'oxygène de l'air et aussi avec l'hydratation qu'elles peuvent subir. Une fois que le nickel est extrait puis qu'il transborde une première fois par Québec, après ça à Sudbury, de retour à Québec puis finalement à la Norvège, mais là on s'en va le raffiner pour qu'il devienne le métal lustré qu'on connaît bien. Alors le nickel, on va le retrouver dans des applications technologiques. Et bien sûr, ce que nous, on associe à notre ancienne monnaie avec les le métal argenté là, qu'on reconnaît, puis qui est très lustré, puis qui est très peu prompt à s'oxyder, bien, le nickel a cette propriété-là d'être un bon agent qui va conserver un lustre pendant longtemps. Alors, on va faire du plaquage de nickel sur différents objets, sur la monnaie, tout ça pour garder la stabilité là, des métaux à l'intérieur. Et de plus en plus, ben, l'industrie des composantes électroniques et des véhicules électriques utilise de grandes quantités de nickel. Et voilà où s'en va notre industrie. L'expansion de ce marché-là laisse présager que dans les prochaines années, ben, on voit le port de Québec encore plus comme un joueur important dans l'industrie du nickel mondial.
Oui. Madame Arsenault, pourquoi ça affecte certains quartiers comme Limoilou plus que d'autres?
Ben, excusez-moi. Effectivement, Limoilou et la base ville de Québec, c'est des secteurs qui sont particulièrement propices à une mauvaise qualité de l'air. Il y a plusieurs causes. Hein. Il y a des causes qui sont historiques. C'est-à-dire que historiquement, la localisation des activités industrielles s'est faite à proximité de milieux habités. Ça se faisait comme ça à cette époque-là. Et donc, on peut dire que Limoilou, à l'époque, a été un peu considéré comme une zone de sacrifice, une zone sacrificielle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de zone tampon entre l'industrie lourde et les habitations résidentielles pour assurer la circulation adéquate de l'air. Il y a aussi, finalement, des causes qui sont géophysiques à cette mauvaise qualité de l'air. Notamment, la direction des vents, donc qui soufflent donc vraiment dans l'axe des industries et vers le quartier, en particulier lorsque le vent est nord-est, qui sont pas les vents les plus dominants, mais qui sont généralement les vents les plus forts. Et aussi la manière dont les quartiers sont faits au niveau géophysique, donc on est un peu dans une cuve. Donc finalement, les contaminants vont rester dans cette cuve-là et vont avoir de la difficulté à se disperser. Puis les causes sont aussi structurelles, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs enjeux, notamment sur l'application des normes environnementales qui est difficile à faire respecter. Il faut savoir que le port de Québec est sous juridiction fédérale, donc n'est pas soumis aux lois sur la qualité de l'air du Québec. Le monitorage aussi de ces contaminants-là atmosphériques est actuellement, je crois, qualifié de déficient à Québec. Le parc automobile ne cesse de croître, les infrastructures de l'incinérateur, là, qui a aussi un enjeu sur la qualité de l'air, sont dans des études, et ces activités-là au port se font encore beaucoup à ciel ouvert. Pas les activités de Glencore là, qui transbordent le nickel, ça se fait sous couvert, même si c'est pas parfaitement étanche, mais il y a de l'entreposage de vrac minier à ciel ouvert, donc on est à peu de choses près à côté d'une mine, là. C'est à quelques centaines de mètres de nos habitations.
Oui, Monsieur Ferland, est-ce qu'on pourrait, justement, on a parlé de l'incinérateur, est-ce que vous pourriez envisager quelque chose pour qu'il n'y ait plus de dispersion, au moins d'émanation finalement de nickel en provenance de cet endroit? Parce que vous m'avez dit qu'il construit en 74, depuis ça commence à faire vieux. Là.
Mais si on fait référence aux émissions atmosphériques de nickel de l'incinérateur, ça n'a pas encore été vastement démontré qu'il pouvait contribuer de manière significative. Ça mériterait d'autres études pour pouvoir approfondir ce sujet-là. C'est d'ailleurs en étudiant toute la contamination de l'incinérateur sur le quartier qu'on a réussi à amasser suffisamment de données pour publier en 2013 l'étude de Brière et Walsh que ma collègue Isabelle mentionnait tout à l'heure. C'est en 2013, grâce à l'étude sur l'incinérateur puis les mesures qu'on a prises, qu'on était capable de dire « Oh, attention, dans les poussières, on récupère énormément de nickel ». Et lorsque les vents soufflent en provenance de l'incinérateur vers les stations d'échantillonnage qui avaient été placées à l'époque, eh ben, on récupérait pas autant de nickel que lorsque les vents provenaient du port de Québec. Alors, on venait de faire la démonstration d'une certaine manière, d'une part, que les vents en provenance du port convoyaient le nickel dans les stations d'échantillonnage. Et en plus, il y avait la signature chimique qui avait été répertoriée par les spécialistes là, du ministère de l'Environnement, la signature chimique du minerai, la mine Raglan, dans le nord du Québec. Alors, c'est comme ça qu'à l'époque, on avait réussi à démontrer que la contamination nickel, c'était de la pentlandite de la mine Raglan.
Est-ce qu'il y aurait moyen de contenir tout ça? Est-ce qu'il y a des filtres ou est-ce qu'il y aurait quelque chose qu'on pourrait faire, que les gens de l'incinérateur pourraient faire on va dire, avant qu'ils se dispersent sur votre quartier?
Pour les émissions de nickel de l'incinérateur, ça, il y a déjà des systèmes de traitement qui sont en place dans les cheminées de l'incinérateur, juste avant que les effluves de l'incinérateur soient émises dans l'atmosphère. Il y a un système de traitement. La plupart des particules qui pourraient convoyer le nickel qui serait émise par l'incinérateur sont captées par des filtres à manchons. Il y a différents autres procédés chimiques qui sont mis en place. Les émissions de l'incinérateur, c'est vraiment un dossier qui est à part de celui du nickel. Je le mentionnerai comme ça. Le nickel, des endroits où on aurait le plus d'impact pour agir, pour minimiser le nickel, ce serait d'avoir des installations qui soient complètement étanches lors des activités de transbordement. Complètement étanches.
Madame Arsenault, vous vouliez réagir?
C'est ce que j'allais ajouter. C'est-à-dire que dans des ports en milieu urbain, ailleurs sur la planète, il y a des activités comme ça qui sont sous couvert. C'est-à-dire que c'est des technologies qui sont à la portée de l'industrie. Et actuellement, avec l'attrait mondial pour le nickel, donc c'est vraiment un métaux stratégique, fait partie des métaux stratégiques, excusez-moi, ben l'industrie aurait les moyens finalement de couvrir les installations. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le nickel, ben ça se retrouve dans la croûte terrestre. Donc il en retrouve évidemment plus dans le concentré de nickel, ben on va en retrouver aussi sous la forme de particules fines et plus grossières sur les autres empilements de minerais qui se retrouvent au port. Et il faut comprendre aussi que justement on parlait plutôt dans l'entretien des PM10, des PST, la norme actuelle que le gouvernement veut modifier, il veut la modifier sous la forme donc de légiférer sur les PM10, donc des particules fines. Mais ce qui se retrouve, donc, ce qui est monitoré aussi à Québec, donc c'est les PST, les particules en suspension totale. Et on peut supposer que la moitié de ces particules en suspension-là totale concerne les PM10. Donc, l'autre moitié, on ne sait pas trop. Et donc, toute la déposition de poussière liée aux activités de transbordement minier, elle n'est pas prise en compte si on regarde strictement les PM10.
Allons-y, parlons-en. Le gouvernement provincial parle de multiplier par 5 la norme journalière de nickel dans l'air. Concrètement, les changements de règlement sur l'assainissement de l'atmosphère veulent concilier environnement, c'est ce qu'on comprend, et le développement économique surtout. Une nouvelle station d'échantillonnage viendra prendre la mesure du problème dans ce quartier, a promis le gouvernement. Mais je suppose que cela ne vous rassure pas, Madame Arsenault?
En effet, ça ne nous rassure pas du tout, notamment parce que, et j'ai lu plusieurs des mémoires qui ont été déposées et rendues publiques par les organisations qui les ont écrites. Il y a des erreurs scientifiques assez fondamentales qui se retrouvent dans les études du gouvernement pour établir les nouvelles normes de nickel. Entre autres, et c'est ce que soulève bien l'Association québécoise des médecins pour l'environnement, c'est que la norme actuelle, ils se sont basés sur les normes européennes. Dans l'air européen, on retrouve essentiellement des sulfates de nickel et des oxydes de nickel. Et 10% donc de la fraction nickel dans l'air européen, 10% de composés chimiques se retrouvent sous la forme de sulfure et sous-sulfure. Donc, très peu finalement. Or, l'air européen ne peut pas être comparé à l'air de Québec. Comme je vous le mentionnais plus tôt, l'air de Québec, c'est essentiellement du nickel sous la forme de pentlandite, donc un sulfure de nickel et de fer là, qui se retrouve dans l'air, sur lequel on a très peu de connaissances. Et à titre de comparaison, l'Australie est un gros producteur de pentlandite. Et eux ont établi la norme annuelle à 3 nanogrammes par mètre cube. Actuellement, le projet du gouvernement, c'est de faire passer cette norme annuelle-là à 20, en fait, c'est d'établir une norme annuelle parce qu'il n'y en a actuellement pas, à 20 nanogrammes par mètre cube. Donc, on est dans un facteur de 6 fois plus approximativement. Et pour la norme journalière, donc c'est là où on la décuple aussi beaucoup.
Oui. Monsieur Ferland, quelles sont les motivations du gouvernement pour augmenter cette norme?
Est-ce que je peux spéculer là-dessus, Madame Bourcoune?
Oui.
En fait, c'est certain que ce qui a été rapporté par des collègues journalistes, c'est que peu de temps avant de réviser la norme de nickel, l'industrie minière avait demandé des audiences au commissariat au lobbyisme pour être capable de faire valoir le point que les normes environnementales concernant le nickel étaient trop sévères. Alors, ils ont pu rencontrer et avoir des audiences et une oreille attentive près du ministère de l'Environnement, la lutte contre les changements climatiques. Maintenant, il semblerait que le ministère ait accepté les arguments de l'industrie minière au fait que les quantités suggérées dans la nouvelle refonte de la loi constitueraient un risque acceptable pour la santé des populations. Alors, ça mérite encore d'être démontré parce que, comme l'a mentionné ma collègue Isabelle Arsenault, on a des raisons de croire qu'il y a des biais méthodologiques, encore une fois, parce qu'on n'a pas spécifié quels étaient les types de formes de nickel et leur degré relatif de cancérogénicité qui sont considérés. Alors, si on base nos études sur les teneurs dans les PM10 d'oxyde de nickel ou de sulfate de nickel, on n'aura pas les mêmes effets sur la santé que lorsqu'on prend les teneurs dans les PM10 de sous-sulfure de nickel, comme c'est actuellement le cas.
Et si je vous entends bien, il y a des formes de nickel qui sont peut-être plus volatiles que d'autres, ou plus dommageables pour la santé, et ou dommageables pour la santé?
Au niveau de la volatilité, je ne serais pas en mesure de vous expliquer si c'est la volatilité qui serait responsable de l'effet plus marqué de certains composés de nickel. Par contre, selon les études qui sont développées par l'Institut californien des dangers sur la santé, le OEHHA, on vient mentionner que les sous-sulfures de nickel sont plus cancérogènes que les autres formes de nickel. Oui. Donc les oxydes, les sulfates.
J'aimerais juste revenir sur ce que Patrick vient de dire à l'égard du risque acceptable. Vous savez, pour établir une norme de qualité de l'air, on utilise des critères de qualité de l'atmosphère. Et donc, généralement, le risque, on va l'établir en étant négligeable. C'est-à-dire qu'il y a un risque négligeable pour la santé des populations. En adoptant les nouvelles valeurs, donc on n'utilise plus les critères de qualité de l'atmosphère, mais là, on utilise plutôt d'un critère provisoire de gestion. C'est-à-dire qu'on fait passer le risque de négligeable à risque acceptable. Ça implique donc des risques supplémentaires qui devrait être socialement acceptable en étant contrebalancé par des bénéfices sociaux et de santé publique en matière d'emploi, d'élévation du niveau de vie ou d'autres choses. Et donc, ces risques considérés comme acceptables doivent être acceptés par une grande majorité de la population. Or, d'une part, les bénéfices sociaux n'ont pas été démontrés et il apparaît aussi que l'acceptabilité sociale n'est pas du tout là à l'égard de ce rehaussement-là de la norme de nickel dans l'air ambiant.
Oui, particulièrement auprès des résidents. Justement, parlons-en, comment la résistance s'organise face à ces changements de tolérance aux émanations de nickel?
Je dirais que c'est une question scientifique socialement vive. Vive depuis plus de 10 ans dans le quartier et je sens actuellement la gronde monter. J'ai participé avec d'autres parents à la rédaction d'un mémoire dans le contexte de ces consultations-là, des parents qui se positionnent pour un air sain. Parce que vous savez aussi que le nickel a un effet disproportionné sur la santé des enfants. Et donc, on a diffuser ce mémoire-là qui a été co-signé par 850 parents de la Basse-Ville de Québec qui représentent plus de 1000 enfants. Donc, dans la foulée de ce mémoire-là, notre député de la circonscription, M. Sebanetti, a fait voter une motion à l'Assemblée nationale à l'égard qu'on devrait rencontrer, en fait, de forcer le ministre de l'Environnement à nous rencontrer, ce qu'on a fait le 7 mars dernier. Une conversation... Donc, il n'a pas nécessairement été très long et on n'a pas pu déployer tout notre argumentaire, mais on a bien fait comprendre au ministre qu'on était extrêmement sérieux à l'égard de cette situation-là. Sérieux, mais aussi très informé. C'est-à-dire qu'on comprend les tenants et les aboutissants de cette question complexe-là. On la comprend de manière contextualisée, donc vraiment liée aux différents enjeux qualité de l'air de Limoilou. Et on a été assez clair aussi sur la fermeté de notre position, à savoir que la qualité de l'air à Québec doit s'améliorer et pas s'empirer, et qu'à cet égard-là, ben on va maintenir la garde et la pression.
Oui, de votre côté, Monsieur Ferland, la résistance est peut-être la suite des choses. Maintenant que vous avez rencontré le ministre, c'est quoi la suite des choses?
Je n'étais pas présent lors de la rencontre avec le ministre. En ce qui me concerne, moi, mon rôle, c'est en tant que citoyen. Lorsqu'on lance des appels à la mobilisation, ben j'y réponds en assistant aux différentes séances d'information qui sont envoyés par la table littoral est ou encore en répondant aux appels sur le comité de vigilance pour les activités portuaires. J'oublie l'acronyme, là, en fait. Isabelle, peut-être, pourrais-tu me le rapporter, mais comité de vigilance des activités portuaires. Et voilà comment moi, je m'implique dans ce dossier-là.
J'aimerais ajouter, si vous me permettez, Patrick est assez humble par rapport à sa contribution, mais je sais qu'il a travaillé donc sur un rapport critique des études qui se sont attardées aux émissions atmosphériques émanant de l'incinérateur de la ville. Une critique méthodologique très rigoureuse qui mène à penser finalement que ce qu'on sait de la qualité de l'air et ce qui sort de l'incinérateur, c'est très partiel en fait. Et qu'on a grand besoin de nouvelles études pour faire un portrait plus juste de la qualité de l'air à Québec.
Et du côté de la résistance, le prochain pas, Madame Arcedo?
Ben écoutez, le prochain pas, la résistance citoyenne dans ces projets-là, hein, vous savez, ça se fait de manière bénévole. On a tous d'autres emplois, d'autres choses à faire, des familles aussi. Maintenant, je sais que les parents qui sont mobilisés actuellement, ils baisseront pas les bras. Un des signataires du mémoire a pris la parole avec une lettre électrochoc au ministre, qui a été rapportée ensuite par des journalistes. Je sais que la ville de Québec, donc, fait front commun contre cette hausse de nickel-là. Donc, il faut voir aussi comment les différents élus vont prendre la balle au bon pour maintenir la pression finalement. Je mentionne aussi qu'il y a un fonds donc à la Caisse des Jardins qui a été dédié à la qualité de l'air. Et dans ce contexte-là, un projet de science citoyenne va voir le jour là au printemps, donc très, très bientôt. C'est-à-dire qu'il y a une 70 ou 75 échantillonneurs qui vont être placés sur des balcons de citoyens volontaires qui vont donc accumuler des données en continu sur un an. Puis après ça, ben on verra les résultats de ça, mais c'est une démarche qui est extrêmement intéressante parce qu'elle met les citoyens donc vraiment dans la prise de données, donc ils deviennent des parties prenantes finalement de la recherche scientifique, mais aussi éventuellement de la recherche de solutions.
Oui, c'est très intéressant, en effet. Mais merci beaucoup. On était en compagnie d'Isabelle Arsenault, doctorante en didactique des sciences à l'Université Laval, et de Patrick Ferland, chimiste et enseignant au collégial. Et tous deux, vous êtes citoyens de Limoilou concernés par ces changements de normes. Merci.
Merci à vous.
Voilà, c'est tout pour cette semaine. À la régie, Daniel Fortin. À la recherche cette semaine, Fanny Robarcher. À la réalisation et au micro, Isabelle Burguin. Je vote pour la science est une production de l'agence Science Presse avec Radio-VM. Écoutez les rediffusions du jeudi à votre radio ou sur le site de l'agence Science Presse. J'espère que vous avez aimé l'émission. Partagez-la. Bonne semaine! Jin Zhaohua est un chercheur typique.